Prière pour le fiancé mort.
Gebete für den toten Bräutigam.
La bougie que j'ai allumée pour toi.
Die Kerze, die ich für dich entzündet habe.
Parle dans le vacillement aérien de la langue des flammes.
Spricht mit der Luft der Flammensprache beben.
Et une larme perle.
Und Wasser tropft vom Auge.
De la tombe, ta poussière distincte convoque à la vie éternelle.
Aus dem Grabe, dein Staub vernehmlich ruft zum ewigen Leben.
Au lieu de rencontre dans la chambre de pauvreté.
O hoher Treffpunkt in der Armut Zimmer.
Si seulement je savais ce que signifient les éléments.
Wenn ich nur wüsste, was die Elemente meinen.
Ils te disent, car tout parle toujours de toi.
Sie deuten dich, denn alles deutet immer auf dich.
Je ne peux que pleurer.
Ich kann nichts tun als weinen.
Cœur des migrants.
Chor der Wandernden.
Nous les migrants, nos chemins nous les traînons derrière nous comme des bagages.
Wir Wandernde, unsere Wege ziehen wir als Gepäck hinter uns her.
Vêtu d'un lambeau du pays où nous faisions halte.
Mit einem Fetzen des Landes, darin wir Rast hielten, sind wir bekleidet.
Puisant notre nourriture dans l'écuelle de la langue apprise au milieu des larmes.
Aus dem Kochtopf der Sprache, die wir unter Tränen erlernten, ernähren wir uns.
Nous les migrants, à chaque croisement des chemins, une porte nous attend. Et derrière, le chevreuil, Israël des animaux aux yeux d'orphelin, disparaît dans ses forêts bruissantes. Et l'alouette jubile au-dessus des champs dorés. Là où nous frappons, s'arrête avec nous un océan de solitude. Ô vous, gardiens armés d'épées de feu, les grains de poussière sous nos pieds migrants commencent déjà à faire lever le sang en nos petits enfants. Ô nous les migrants, devant les portes de la terre, d'avoir salué les lointains, nos chapeaux sont tout piqués d'étoiles. Tels des bornes frontières, nos corps gisent sur la terre et donnent la mesure de l'horizon.
Ô wir Wandernde, kriechende Würmer für kommende Schuhe. Unser Tod wird wie eine Schwelle liegen vor euren verschlossenen Türen.
Ô nous les migrants, vers rampant pour des souliers à venir, notre mort, elle, un seuil sera posée devant vos portes verrouillées. À toi aussi, mon bien-aimé.
Auch dir, du mein Geliebter.
Deux mains, nées pour s'ouvrir, ont arraché les souliers avant de te tuer.
Haben zwei Hände zum Dachreichen geboren, die Schuhe abgerissen, bevor sie dich töteten.
Deux mains qui devront s'ouvrir quand elles tomberont en poussière. Tes souliers étaient en peau de veau. Ils étaient tannés, teints. La laine les avait percés. Mais qui sait où demeure encore un dernier souffle de vie. Pendant la courte séparation de ton sang avec la terre, ils ont accumulé du sable comme une horloge que la mort remplit à chaque instant. Tes pieds, les pensées les devançaient.
Deine Füße, die Gedanken eilten ihnen voraus.
Elles qui étaient si vite auprès de Dieu, ainsi furent-ils fatigués, blessés à force de courir après ton cœur. Mais la peau du veau, qui un jour connut la caresse de la chaude langue d'une mère animale avant d'être arrachée, une fois encore fut arrachée de tes pieds, arrachée, ô toi, mon bien-aimé.
Aber die Kalbshaut, darüber einmal die warme, leckende Zunge des Muttertieres gestrichen war, ehe sie abgezogen wurde, wurde noch einmal abgezogen von deinen Füßen, abgezogen. O du, mein Geliebter.
Voilà, vous avez entendu, c'est assez incroyable. Cette poésie est encore plus incroyable. Elle paraît quand on pense à celle qu'il a écrite, qu'il a créée. Parce que le Khan et les Sacs, c'est très intéressant, c'est une énigme ce cas, pour plusieurs raisons. Et aussi un cas très problématique pour l'histoire littéraire, parce que ça ravive l'éternelle querelle des Beuviens, ceux qui pensent que le vécu, la vie de l'auteur est inséparable de l'œuvre, que l'œuvre, on ne peut pas séparer l'œuvre et l'auteur, et puis d'autres qui pensent que le texte est absolument autonome et qu'au fait, l'auteur n'a rien à voir. Et le paradoxe réside dans le fait que Nelly Sachs, quant à elle, a toujours été persuadée, ou en tout cas voulait faire croire à tout le monde, que sa vie ou son vécu n'a rien à voir avec sa poésie. Et qui refusait obstinément à livrer l'information sur elle-même. Tous ses biographes, tous les critiques ont toujours été frustrés parce qu'on arrivait à lui arracher des miettes concernant sa propre vie, et puis ces miettes en plus se révélaient être des arrangements savamment faits par elle-même en vue de dissimuler ce qui s'est passé réellement. Et en même temps, c'est un cas, Nelly Sachs. On aurait pu croire qu'elle a raison, qu'on n'a qu'à la laisser tranquille, elle et sa vie, et de se concentrer sur ce qu'elle écrit. Mais si on le fait, on ne comprendra jamais rien à ce qu'elle a écrit, et puis surtout, on ne comprendra pas comment elle a pu écrire ce qu'elle a écrit. Parce que c'est un des cas extrêmement rares où un très mauvais poète devient presque tout à coup, ou en tout cas elle voulait croire que c'était tout à coup en réalité, ça a pris un certain temps, mais qu'un vraiment un poète médiocre devient un poète de génie. Et c'est aussi un cas où cette naissance de génie poétique est vraiment le produit de l'histoire. Parce que qu'est-ce qui se passe avec Nelly Sachs? Nelly Sachs, qui naît à la fin du 19e siècle, plus exactement en 1881, à Berlin, dans une famille juive où rien ne rappelle la judaïté, complètement assimilée, complètement intégrée, ou complètement ancrée, plongée, immergée dans la culture allemande et dans la langue allemande. Et où elle grandit comme fille unique dans une famille très aisée, choyée par le père, la mère, un enfant fragile qui, comme tant de jeunes filles allemandes, à un moment, à 17 ans plus exactement, se met à écrire des vers. Et les vers qu'elle écrit à cette époque et qu'elle écrira encore pendant 30 ans sont des vers que n'importe quelle jeune fille allemande cultivée aurait pu écrire. Donc elle écrit ses vers. Pendant ce temps, la vie, elle, continue et continue d'une manière très indolente, sans événement ou presque, c'est-à-dire elle est d'abord, elle grandit dans cette famille, ensuite elle ensuite, ce qui se passe ensuite, personne ne l'a jamais su, personne ne saura jamais. Parce qu'apparemment, il y a eu une histoire d'amour quand elle avait justement 17-18 ans qui a mal tourné. Personne ne sait si elle l'a inventé ou si ça a eu lieu, mais en tout cas, elle a créé tout un mythe autour de cet événement dont on ne sait même pas s'il a eu lieu. Mais c'était un traumatisme, probablement le traumatisme qui a déclenché cette première vague de la poésie qu'on peut dire néo-romantique. Donc assez conventionnelle, assez habile, mais pas plus. Et puis, là, nous sommes déjà dans les années 20. Là, le père industriel cultivé, qui a une grande bibliothèque où Nelly Sachs puisait pendant des années et des années, tombe malade. Il est malade pendant très très longtemps et c'est elle qui s'occupe de son père. Donc il y a une sorte de repli sur la vie familiale. Il y a très peu d'ouverture, très peu de liens avec d'autres milieux que le milieu strictement familial. Et puis, le père meurt et tout à coup, elle se retrouve de la petite fille choyée et se retrouve chef de la famille parce que sa mère est encore moins capable qu'elle de s'occuper de... du quotidien. Et elle se transforme en chef de la famille, elle s'occupe de l'héritage, de déménagement, mais c'est toujours une vie très, très peu marquée par des événements, si ce n'est la mort du père, très aisée finalement, et toujours complètement allemande. Et puis, les années 30, l'histoire commence à s'immêler, cette histoire, en l'occurrence, porte le nom du Troisième Reich, qui, tout à coup, fait d'elle une juive. Et la transformation est totale parce qu'elle est non seulement confrontée à l'exclusion sociale, elle n'est pas tout simplement, tout à coup se voit en marge de la société allemande, mais en même temps, elle est confrontée à une toute autre culture qu'elle ignorait jusque-là, qui ne l'intéressait jamais, et là, elle est forcée de s'y intégrer, elle est forcée à s'y intéresser, parce que qu'est-ce qui se passe dans les années 30 en Allemagne ? À mesure que les juifs sont expulsés des différentes sphères de la vie publique, pendant un certain nombre d'années, ils ont encore une certaine autonomie, c'est-à-dire il y a une sorte de ghettoisation de la vie pour les juifs allemands. Ils peuvent avoir leurs journaux, ils peuvent avoir leurs maisons d'édition, ils peuvent avoir leur théâtre, ils peuvent avoir leurs écoles, mais c'est forcément déjà les écoles juives, le théâtre juif, les périodiques juifs. Donc Nelly Sachs, cet écrivain, poète allemande, auteure de poèmes médiocres, se retrouve tout à coup immergée dans une autre culture qu'elle n'a pas connue jusque-là, et elle commence à comprendre qu'elle fait partie d'un autre peuple, même si elle continue à faire partie de la même langue, de la langue allemande. Puis les choses se gâtent, comme vous le savez, et je ne vais pas vous faire le cours de l'histoire allemande ici, et la vie devient de moins en moins vivable, et les oasis de liberté laissées aux juifs se rétrécissent et commencent à disparaître. Et Nelly Sachs a très peur, probablement moins pour elle-même que pour sa mère, qui n'est pas autonome du tout, et elle commence à songer à quitter le pays pour aller où ? Pour aller où ? Il pense à la Suède, et si elle pense à la Suède, c'est à cause de ses lectures. C'est une grande admiratrice de Selma Lagerlöf, qui en dit aussi beaucoup sur ses goûts. Selma Lagerlöf est un auteur absolument merveilleux, mais le fait d'aimer Selma Lagerlöf, de préférer Selma Lagerlöf à tous les autres écrivains suédois, est quand même assez symptomatique. Donc, elle aime beaucoup Selma Lagerlöf et elle voudra, elle écrit à Selma pour lui demander une lettre de recommandation pour avoir le visa. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire à la deuxième moitié des années 30, la Suède délivre des visas d'entrée aux Juifs vraiment à compte-gouttes. Chaque dossier est examiné, il passe des cercles des administrations suédoises, ça peut être très très long, ça aboutit très rarement, et Nelly Sachs désespérément essaie de s'accrocher à cet espoir de visa pour la Suède, et alors que tout ce qu'il sait de la Suède, c'est Selma Lagerlöf et le merveilleux voyage de Nils Holgersson. Et presque par miracle, sa quête aboutit. C'est-à-dire que Selma Lagerlöf, déjà très très âgée et qui très probablement ne se souvenait plus que des années auparavant, Nelly Sachs lui avait envoyé un recueil de ses poèmes avec dédicace et il lui a répondu très gentiment un petit mot. Selma Lagerlöf écrit cette lettre, encore deux lignes, qui vont sauver Nelly Sachs. Et il y avait aussi encore une autre personnalité importante suédoise qui a écrit une autre lettre de recommandation, ce qui fait qu'au bout d'un très très long parcours, en mai 1940, elle prend avec sa mère l'avion pour la Suède, pour ne plus jamais revenir. À ce moment-là, ils sont complètement ruinés, spoliés, il ne reste plus rien de la fortune qu'ils avaient, qui leur permettait quand même de vivre très aisément. Et tout a été confisqué, ils ont dû brader leurs affaires, certains leur ont été pris, l'appartement, tout ça disparaît. Ils partent avec une petite valise en Suède. Et ils arrivent en Suède, où ils ne connaissent personne, ni la langue. Elle commence à apprendre un peu le suédois, mais au moment où il débarque en Suède, il débarque vraiment dans le désert. Et en 40. Et ensuite commence la lutte pour la survie de cette minuscule femme qui, à l'époque, a déjà, donc en 40, il a 49 ans. Et sa mère, âgée et malade, qu'il faut faire vivre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Sans la langue, impossible de laisser sa mère, elle n'a pas le permis de travail. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste la traduction. Et elle se met à traduire. Elle se met à traduire la poésie suédoise. Et c'est grâce à elle que la poésie suédoise perce aussi dans l'espace germanophone. Comment elle traduit, c'est encore un miracle, parce que son suédois est très balbutiant et ne sera jamais parfaite, mais elle traduit et elle fera paraître 4 anthologies de la poésie suédoise en allemand, donc plus quelques volumes consacrés à des poètes poètes particuliers. Et je vais revenir tout à l'heure parce que c'est un grand exploit, parce que la poésie suédoise à cette époque-là était au sommet avec la grande percée moderniste des années 30. Dans les années 40, il y avait tous les grands étaient en vie, et c'est ces gens-là que Nelly Sachs commence à traduire. En même temps, elle écrit. Et là, on a l'impression d'avoir vraiment affaire à une métamorphose de monde des insectes. C'est-à-dire, c'est la larve qui entre dans la phase de cristallisme. Elle est là, avec sa mère, dans un appartement, une pièce cuisine, pas dans un banlieue sinistre de Stockholm, mais dans un quartier qui vraiment n'a rien à voir avec ce que voient habituellement les touristes qui y vont, donc... quartier qui à l'époque était plutôt miteux. Et là, la communauté juive de Stockholm avait un immeuble et ils ont pu avoir cette pièce cuisine là-dedans. Donc elle était là avec sa mère et pendant la journée, elle faisait la cuisine et s'occupait de ménage. Et dans la nuit, elle allumait une petite bougie, ou parfois elle n'allumait rien du tout pour ne pas déranger sa mère, et elle se mettait à la cuisine et elle écrivait. Elle écrivait avec un arrière-fond tout ce qui se passait à ce moment-là en Europe et en Allemagne, et dont les nouvelles lui arrivaient à la fois via ses propres contacts restés en Suède, mais aussi par les journaux suédois, par la radio. Et elle voyait se profiler et puis s'accomplir la catastrophe. Elle essayait de comprendre... ce qui s'est passé, et c'est probablement de ce grand désarroi, à la fois la conscience d'une catastrophe irrémédiable, du désir de comprendre, de la solitude totale dans laquelle elle se trouvait, complètement en dehors de tout lien sociaux, qu'allait naître cette poésie qu'on peut appeler la poésie après 47, c'est-à-dire quand les choses se mettent en place. Et cette poésie-là, ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'elle avait écrit avant.
Un enfant mort parle. La mère me tenait par la main, puis quelqu'un a levé le couteau de l'adieu. La mère a dégagé sa main de la mienne pour que je ne sois pas atteint. Mais elle, doucement, a touché encore une fois mes hanches et sa main alors a saigné. De ce moment, le couteau de l'adieu m'a coupé en deux, la bouchée dans la gorge. Il a surgi avec le soleil dans le crépuscule du matin et s'est mis à s'aiguiser dans mes yeux. Dans mon oreille, vents et eaux s'affûtaient et toute voix de consolation enfonçait des aiguilles dans mon cœur. Quand on m'a menée à la mort, à l'ultime instant, j'ai senti encore le geste qui retirait le grand couteau de l'adieu. Je voudrais dire que les poèmes sont traduits par Mireille Gancel. Toujours, là où meurent des enfants, les choses les plus ténues deviennent apatrides. Le manteau de douleur des couchants dans lequel l'âme sombre du merle accuse la nuit. De petits vents soufflent sur les herbes tremblantes, éteignant les décombres de lumière et semant l'agonie.
Emma, Emma, dort wo Kinder sterben, werden die leisesten Dinge heimatlos. Der Schmerzensmantel der Abendröte, darin die dunkle Seele der Amsel die Nacht heranklagt. Kleine Winde über zitternde Gräser hinwehend, die Trümmer des Lichtes verlöschend und Sterben sehend.
Et toujours, là où meurent des enfants se consument les visages de feu de la nuit, solitaire dans son secret. Et qui sait quelque chose de ceux qui montrent le chemin et que la mort envoie? Senteur de l'arbre de vie, cri du coq qui écourte le jour, horloge ensorcelée par les sortilèges de l'effroi, automnal jusqu'au fond des chambres d'enfants, aux rives de l'obscurité, battement des eaux, murmure et passage du sommeil des temps. Toujours, là où meurent des enfants, les miroirs des maisons de poupées se voilent d'un souffle, ne voient plus la danse des doigts lilliputiens vêtus de satin sans d'enfants, danse qui s'immobilise comme dans une longue vue, un monde à des distances lunaires. Toujours, là où meurent des enfants, pierres et étoiles et tant de rêves deviennent apatrides.
Emma, dort wo Kinder sterben, werden Stein und Stern und so viele Träume heimatlos.
Et lorsque ma peau sera en lambeaux, décharnée, écorchée, je contemplerai encore Dieu, Job. Ô les cheminées, sur les demeures de la mort, ingénieusement pensées, lorsque le corps d'Israël réduit en fumée partit à travers les airs, qu'un astre le reçut, ramoneur, et devint noir. Ou bien était-ce un rayon de soleil?
Oh, die Schornsteine, oft in sinnreich erdachten Wohnungen des Todes, als Israels Leib zog aufgelöst in Rauch durch die Luft, als Essenkehrer ihn ein Stern empfing, der schwarz wurde, oder war es ein Sonnenstrahl?
Oh, les cheminées, chemin de poussière, chemin de liberté pour la poussière de Jérémie et de Job, qui vous inventa et pierre sur pierre construisit ce chemin pour ceux enfuis en fumée.
Oh, die Schornsteine, Freiheitswege für Jeremias und Hiobs Staub. Wer erdachte euch und baute Stein auf Stein den Weg für Flüchtlinge aus Rauch?
Oh, les demeures de la mort, instaurée avenante pour l'hôte de la maison qui d'ordinaire fut en invité. Ô vous, doigt, au seuil posant la traverse, tel un couteau entre vie et mort.
Ô die Wohnungen des Todes, einladend hergerichtet für den Wirt des Hauses, der sonst Gast war. O ihr Finger, die Eingangsschwelle legend, wie ein Messer zwischen Leben und Tod.
Ô vous, cheminée, ô vous, doigt, et le corps d'Israël en fumée à travers les airs.
Ô ihr Schornsteine, ô ihr Finger, und Israels Leib im Rauch durch die Luft.
Voilà, une poésie très étrange qui naît au croisement en fait de choses. D'une part, c'est le désir de trouver des mots pour décrire une catastrophe qui va prendre chez elle dans sa poésie l'allure et l'ampleur d'un événement cosmique. Et d'autre part, c'est tout simplement la connaissance de la poésie suédoise, de cette traduction qui lui donne l'instrument pour appréhender toute cette matière qui pendant un moment se refuse tout simplement à être formulée. Parce que, comme je commençais à vous dire, elle traduit donc les poètes suédois, ses contemporains, qui l'avait devancé sur le chemin poétique à cette époque-là, si vous voulez. Elle traduit des gens comme Gunnar Ekelöf, comme Österling, comme Lindgren, tous des grands poètes qui avaient fait craquer la forme traditionnelle déjà de la versification en suédois. Elle traduit aussi des grands modernistes plus anciens comme Karin Boye et Edith Södergran, les deux femmes qui l'ont précédée sur ce chemin de la poésie moderniste. Et c'est aussi un phénomène très étrange, c'est-à-dire que ces modèles ne sont pas les modernistes allemands, mais les modernistes suédois qu'ils s'approprient en les traduisant. Très intéressant comme démarche. Et qui lui permet vraiment de sortir comme un papillon de ce carcan de la forme qu'elle avait cultivée les 30 années qui avaient précédé et de créer des formes absolument inouïes dans la poésie allemande. Et celui qui a ensuite, rétrospectivement bien sûr, mais d'une façon peut-être la plus claire, a défini la signification et puis la forme aussi de cette poésie, c'était un de ceux qui l'avait découvert en Allemagne, c'était le poète Hans Magnus Enzensberger, qui écrit à propos de Nelly Sachs. Il est impossible de penser la poésie de Nelly Sachs comme une suite d'artefacts isolés. Depuis son premier recueil, paru en 1946, elle ne travaille au fond qu'un seul et unique livre, un livre chrysalide. Lui aussi, il voit ses affinités avec le monde des insectes, qui, je continue, peu à peu se déploie avec sa langue et dont la source et l'origine sont d'ordre religieux. Pour Enzensberger, c'est très, très important. Et c'est clair que c'est très important parce que si vous avez comme ça un univers qui a volé un éclat, qui tout est explosé, comment peut-on le reconstituer, il faut des repères. Et ces repères-là, elle les trouve dans la pensée religieuse judaïque cette fois-ci. Elle peut le faire parce que il y a quand même une vie intellectuelle, culturelle suffisamment nourrie autour de la synagogue à Stockholm, donc dans la communauté juive de Stockholm. Elle va assister à des conférences sur la philosophie, commence à lire, et c'est bien évidemment la philosophie de Martin Buber avec son principe de dialogal, cette fixation sur le dialogue et la présence de l'autre, de ce qu'il appelle le moi. moi, le je et le tu, qui lui permet petit à petit à construire un système qui lui permet d'englober en quelque sorte, d'appréhender et puis d'exprimer le cataclysme qui a failli anéantir le peuple d'Israël. Donc elle travaille là-dessus avec des thèmes récurrents, les thèmes qu'on retrouve depuis sa poésie de jeunesse, mais qui sont ici complètement transformés parce qu'ils sont mis au service d'une toute autre tâche, de tout autre projet existentiel et littéraire. Et qu'est-ce qui arrive? Il n'arrive rien de tout, parce qu'évidemment personne ne veut publier. Alors, cette métamorphose est achevée, mettons, en 47. Ensuite, le temps passe, elle ne peut publier que des traductions. Puis, enfin, paraissent deux recueils et ils ne paraissent pas en Suisse, comme elle aurait voulu. Ils ne paraissent pas en Allemagne de l'Est, ils paraissent en Allemagne de l'Est, hein, chez Aufbau Verlag, et ça ne provoque absolument aucun écho. Ça continue avec ses publications ultérieures, et pendant tous les années 50, c'est la même chose, c'est-à-dire Nelly Sachs, de plus en plus connue comme traductrice, comme introductrice de la poésie suédoise dans le domaine allemand, germanophone, et inexistante comme poète. Sauf peut-être un peu en Suède, parce que les poètes se traduisent entre eux, et petit à petit, elle entre en contact avec le milieu littéraire en Suède, et les poètes qu'elle traduit commence à son tour à s'intéresser à ce qu'elle écrit et à la traduire. Et les traductions paraissent ici et là. Et puis, à la fin des années 50, début des années 60, il y a quand même un déclic qui se produit grâce à deux choses toujours. Donc, à ce qui se passe en Suède et à ce qui commence à se passer en Allemagne, où la nouvelle génération de poètes la découvre. Ce sont tous des gens qui ont 20 ou 30 ans moins qu'elle. Ils étaient tous adolescents pendant la guerre. Et ils essaient eux aussi de recréer un monde à partir des débris, des ruines d'après-guerre. Et qui tout à coup découvrent une minuscule Nelly Sachs blottie dans une pièce cuisine à Stockholm, qui écrit la poésie que personne n'est capable d'écrire ailleurs, sauf peut-être Paul Celan, mais lui, il est en France. Et d'ailleurs, les deux se rencontrent. Les deux se rencontrent, vous connaissez peut-être l'histoire, et c'est deux âmes sœurs qui tout à coup voient qu'ils ont les mêmes préoccupations poétiques et existentielles. Une grande amitié jaillit, qui perdura malgré quelques problèmes jusqu'à leur mort, qui interviendra pratiquement au même moment, c'est-à-dire Nelly Sachs mourra le même jour que Celan sera enterré. Mais avant ça, le déclic se produit, quand même, et Celan aussi y est pour quelque chose, et tout à coup l'Allemagne découvre un grand auteur. On va en pèlerinage chez elle à Stockholm, et ça aurait pu donner un conte avec un happy end parfait, mais ce ne fut pas le cas, parce qu'elle a payé très cher les années 20, 30, 40 et 50. Sa mère meurt en 52, et à partir des années 50, elle commence elle-même à souffrir de grands, graves troubles psychiques. C'est le délire de persécution, donc elle sera périodiquement enfermée dans des cliniques psychiatriques où il écrira d'ailleurs mieux que chez elle, parce que visiblement, avec la mort de la mère, l'existence, tout chavire. Et à part cet féerique événement de prix Nobel, ce sera plutôt la fin de vie très dure, misérable, marquée par les maladies, surtout par ces troubles psychiques, mais qui immanquablement vont contribuer à approfondir sa poésie dans un sens très intéressant, parce que ce qui sort après la métamorphose de juste après-guerre, c'est une poésie extrêmement décharnée. C'est très abstrait, c'est extrêmement dense, très difficile d'accès. Parce que, visiblement, dans la vie réelle, dans la vie qu'elle vit, dans l'existence, il n'y a pas des éléments qui peuvent nourrir des poèmes de cette tension métaphysique. Et ces éléments du quotidien qui auront assez de charge émotionnelle, assez de dramatisme, elle le retrouvera dans la clinique psychiatrique. Il y a tous les motifs de ce monde médical, de monde de fous et de soignants et de médecins, qui donnera de la matière, qui donnera de la chair à sa poésie des dernières années. Peut-être on peut lire, entendre. Oui.
Mains des jardiniers de la mort, vous qui des camomilles en berceau prospèrent dans les rues de terre ou le long de la pente avez cultivé la mort, monstre des serres de votre industrie. Mains, brisant le tabernacle du corps, happant carnassière de tigre les signes des secrets. Mains, que faisiez-vous lorsque vous étiez mains de petits enfants? Teniez-vous un harmonica, la crinière d'un cheval à bascule? Avez-vous dans l'obscurité saisi la jupe d'une mère? Montrer un mot dans le livre de lecture, était-ce Dieu peut-être ou homme? Ô toi, main qui étrangle, ta mère était-elle morte, ta femme, ton enfant, que tu n'es plus que la mort dans ta main, dans cette main qui étrangle? Cœur des rescapés. Nous les rescapés, dans les ossements desquels la mort tailla ses flûtes, sur les tendons desquels la mort déjà frotta son archer, la musique mutilée de nos corps poursuit sa complainte.
Wir Geretteten, aus deren hohlem Gebein der Tod schon seine Flöten schnitt, an deren Sehnen der Tod schon seinen Bogen strich, unsere Leiber klagen noch nach mit ihrer verstümmelten Musik.
Nous les rescapés, devant nous dans l'air bleu, continuent de pendre les cordes nouées pour nous. Les horloges continuent de se remplir des gouttes de notre sang.
Wir Geretteten, immer noch hängen die Schlingen für unsere Hälse gedreht vor uns in der blauen Luft. Immer noch füllen sich die Stundenuhren mit unserem tropfenden Blut.
Nous les rescapés, les vers de la peur continuent de se repaître de nous. Notre astre est enterré dans la poussière.
Wir Geretteten, immer noch essen an uns die Würmer der Angst. Unser Gestirn ist vergraben im Staub.
Nous les rescapés, vous supplions, montrez-nous lentement votre soleil. À votre pas, conduisez-nous d'étoile en étoile. Laissez-nous tout bas réapprendre la vie. Sinon, le chant d'un oiseau, l'eau dans le seau à la fontaine, pourrait faire se rouvrir notre douleur mal scellée et nous emporter avec l'écume. Nous vous supplions, ne nous montrez pas encore un chien qui mord. Il se pourrait que nous tombions en poussière sous vos yeux, tombions en poussière.
Wir bitten euch, zeigt uns noch nicht einen beißenden Hund. Es könnte sein, Es könnte sein, dass wir zu Staub zerfallen, vor euren Augen zerfallen in Staub.
Qu'est-ce donc qui tient ensemble notre trame? Pauvre de souffle désormais, nous dont l'âme du fond de minuit s'enfuyait vers lui, bien avant qu'on ne sauve notre corps dans l'arche de l'instant.
Was hält denn unsere Webe zusammen, wir odemlos gewordene, deren Seele zu ihm floh aus der Mitternacht, lange bevor man unseren Leib rettete in die Arche des Augenblicks.
Nous les rescapés, nous serrons votre main, nous reconnaissons votre œil, mais seul l'adieu nous maintient encore ensemble, l'adieu dans la poussière nous maintient ensemble avec vous.
Wir Geretteten, wir drücken eure Hand, wir erkennen euer Auge, aber zusammen hält uns nur noch der Abschied im Staub. Hält uns mit euch zusammen.
Afin que les persécutés ne deviennent pas persécuteurs. Pas. Dans quelle grotte d'écho êtes-vous gardés, vous qui un jour aux oreilles annonçâtes la mort à venir. Pas. Ce ne sont plus ni le vol des oiseaux, ni la vue des entrailles, ni Mars, dans la sueur du sang qui délivrèrent l'oracle de la mort, mais des pas. Pas, dans la nuit des temps, jeu du bourreau et de la victime, du persécuteur et des persécutés, chasseur et proie. Pas, qui rendent le temps maître de la déchirure, accrochent des loups aux parois de l'heure, éteignent dans le sang la fuite dérobée aux fugitifs. Pas, comptant le temps en cris, en soupir, exil du sang jusqu'en son extrême coagulation, sueur de la mort en monceau d'heures. Pas des bourreaux par-dessus les pas des victimes, l'aiguille des secondes dans le cours de la terre, quelle lune noire la remonta en tel effroi. Dans la musique des sphères, où résonne-t-elle votre stridence? Si seulement je savais.
Wenn ich nur wüsste.
Sur quoi reposa ton dernier regard?
Worauf dein letzter Blick ruhte?
Était-ce une pierre qui avait bu déjà?
War es ein Stein, der schon viele letzte Blicke getrunken hatte?
Tant d'ultime regard jusqu'à ce qu'il tombe aveuglé sur l'aveugle?
Bis sie in Blindheit auf den Blinden fielen?
Où était-ce la terre? Assez de terre pour remplir un soulier.
Oder war es Erde? Genug, um einen Schuh zu füllen.
Et devenir noir déjà de tant de séparation et de tant de morts préparés.
Und schon schwarz geworden von so viel Abschied und von so viel Tod bereiten.
Où était-ce ton dernier chemin?
Oder war es dein letzter Weg?
Qui t'a porté l'adieu de tous les chemins?
Der dir das Lebewohl von allen Wegen brachte, die du gegangen warst.
De tous les chemins que tu avais pris. Une flaque d'eau.
Eine Wasserlache.
Un morceau de métal miroitant.
Ein Stück spiegelndes Metall.
Peut-être la boucle au ceinturon de ton ennemi.
Vielleicht die Gürtelschnalle deines Feindes.
Ou quelque autre petit devin du ciel.
Oder irgendein anderer kleiner Wahrsager des Himmels.
Ou bien la terre.
Oder sandte dir diese Erde.
Ou bien la terre, elle qui ne laisse aucun être s'en aller mal aimé.
Die keinen ungeliebt von hinnen gehen lässt.
T'envoya-t-elle l'augure d'un oiseau de par les airs?
Ein Vogelzeichen durch die Luft.
Rappelant à ton âme qu'elle dut frémir dans son corps brûlé en supplice.
Erinnern deine Seele, dass sie zuckte in ihrem qualverbrannten Leib.
Voilà.
On arrête là.
On arrête, oui, changement de décor pour continuer un peu. Parce que je vous ai dit que la dernière, la seule grande joie, le bonheur de Nelly Sachs à la fin de sa vie, c'était le prix Nobel qu'elle a reçu en 66. Et c'était très bien pour elle, mais c'était aussi très bien pour sa poésie, parce que c'est grâce à ce prix Nobel que sa poésie a pu rayonner un peu plus qu'elle aurait fait sans cela. Et c'est pour ça que Serge Safran... Comme... Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'on avait prévu de parler de ce prix Nobel, non seulement comme deux mots, prix Nobel, qu'on discerne chaque année pour les œuvres littéraires, mais de voir ce qui se trouve derrière ces mots, d'une part, comment on reçoit, comment est faite la décision pour le prix Nobel. Et celui qui devait nous en parler, c'était Horace Engdahl, qui n'est pas là,